Petsalil FM, soir, le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Les titres du journal. L'honorable Gladys Tosu s'aligne sur la vision du chef de l'État Patrice Talon en faisant du hautement social une réalité. En cause, elle a procédé à la remise avec l'accompagnement de la session UP Le Renouveau de Ruyogbe d'un don de matériaux de construction plus une enveloppe financière à l'école primaire publique de Kwetou Gbadi. L'objectif est de permettre l'érection de la cantine de cette école. Lancement officiel ce jour de la première session du comité de suivi du projet APU à la gestion de la réserve de la biosphère du Mono et de l'air marine protégé Bouche du Roi pour le développement économique inclusif et durable à Grand Popo. Le but est de partager avec les parties prenantes les informations relatives au comité de suivi et de faire le point des activités menées. Appui logistique au groupement des sapeurs-pompiers, le gouvernement met les moyens à disposition pour plus d'efficacité. Et puis en sport, Mara Monde Côte d'Ivoire, le Bénin renvoie la France à la maison. Ainsi se dresse l'ossature de cette session d'information mise en onde par Herman Zalé et présentée par Angelo Silo.
Toute l'info locale du Mono Koufou sur Petsalil FM.
À nouveau, bonsoir. L'honorable Gladys Tosu et la session communale UP Le Renouveau de Ruyogbe joignent l'acte. À la parole, ils viennent de doter l'école primaire publique de Kwetou Gbadi en matériaux de construction et d'une enveloppe financière pour l'érection de la cuisine devant abriter la cantine scolaire. La remise du don a eu lieu le week-end écoulé dans l'enceinte de la dite école. C'était en présence des apprenants, du personnel enseignant, du comité de gestion de la cantine scolaire et des parents d'élèves, une œuvre sociale qui non seulement offre un cadre adéquat pour les bonnes dames, mais participe également du maintien des enfants à l'école. L'honorable Gladys Tosu précise le bien fondé de ce geste de la session communale UPR de Ruyogbe.
La section communale UP Le Renouveau de la commune de Ruyogbe a tenu à honorer une promesse de campagne qui a été faite pendant les élections législatives de 2023. Il s'agissait pour nous d'apporter une aide matérielle et financière constituée de ciment et d'une enveloppe financière pour la construction de la cuisine de la cantine de cette école primaire. En tant que député à l'Assemblée nationale, vous savez pour moi que l'éducation est le chantier principal de développement. Et donc, tout ce qui concerne l'éducation, j'attache une importance particulière à cela.
À travers ce geste, l'honorable Gladys Tosu et son équipe ont honoré une promesse électorale. Mission accomplie, dira la députée de la 18e circonscription électorale qui salue la forte mobilisation de la population. Honorable Gladys Tosu.
Pour cette circonstance aujourd'hui, je suis vraiment accompagnée des délégations venues de tous les arrondissements, de Dahé, Assé, Zongbonou, Ruyogbe, Doutou et même Honhui même. Nous sommes tous arrivés aujourd'hui pour soutenir les parents d'élèves, le directeur de l'école et les élèves. Nous sommes samedi et pourtant nous avons eu une cohorte d'élèves qui a formé une belle raie pour nous accueillir. Ils étaient tous contents. Nous avons également eu les parents d'élèves qui ont exprimé toute leur joie de voir l'appui que nous avons apporté à l'école. Et ensuite, nous avons eu le directeur d'école qui nous a également exprimé toute sa reconnaissance. Je peux vous dire que cette activité a été très bien accueillie par la population de Kwetou Gbadi et nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers d'accompagner les œuvres de développement du président Patrice Talon et tout ce qui se fait aujourd'hui pour que le Bénin puisse se hisser définitivement sur le chemin du développement.
En de pareilles circonstances, les mots de reconnaissance ne manquent pas. Les bénéficiaires en ont eu à suffisance pour témoigner leur gratitude aux responsables de l'UPR section de Huiyogbe ayant aussi formulé d'autres doléances. Parlons toujours développement. À la base, la maison des jeunes de Kwenou dans la commune d'Atiémé construite avec le fonds FADEC 2019-2020 restée inexploitée. Depuis lors, les populations de cette localité mécontente de la situation l'ont fait savoir au détour de l'émission Allo Bessalil. Une équipe de la radio a fait une descente sur le terrain pour constater de visu les faits. Voici le reportage de Enoch Agosu.
Fermée dans la brousse, sans mobilier ni électricité et de l'eau, la maison des jeunes de Kwenou est laissée pour compte. La population est déçue de ne pas pouvoir profiter de cette infrastructure qui a été construite dans la localité. Ils le font savoir et laissent un message aux autorités.
Les problèmes qui nous dérangent par rapport à la maison construite, nous n'avons pas les meubles dans la salle. Nous avons manqué de meubles. Secondo, nous avons aussi problème d'électricité. Alors, il y a des instruments là, mais sans lumière, comment on peut les allumer? Donc tout ça là demeure là, sans rien. Troisième, nous avons encore problème d'eau. Il n'y a pas de l'eau là. Alors une grande maison comme ça doit avoir de l'eau. Et il doit avoir des manifestations qu'on doit avoir de l'eau. Donc nous avons ces problèmes-là qui nous succombent. Nous demandons aux autorités de nous aider afin que nous puissions réussir à ces problèmes-là.
Maison des jeunes, là, il n'y a pas dit. Mais nos problèmes, Soussou.
Concernant la maison des jeunes, nous avons plusieurs difficultés. Si une telle construction vient dans une localité, il doit avoir de l'électricité, de l'eau et des mobiliers. Si des étrangers viennent, ils doivent voir des sièges pour s'asseoir, de l'électricité pour l'allumage des lampes. En ce moment, ils diront vraiment qu'il y a une bonne chose dans la localité. Sans ces choses, il n'y a aucun développement. Nous demandons aux autorités de nous aider. Cette maison des jeunes appartient à toute la population.
Pour pallier à ce problème, approchez. Le maire de la commune d'Atiémé fait quelques propositions. Saturin Kokou Dansou, maire de la commune d'Atiémé.
Les mobiliers qui sont pas encore dedans, mais c'est un plan. On fait un plan pour construire ces choses-là. C'est une affaire de budget. Il n'y a pas que peine dans la commune. Donc, tout ça, ce programme, c'est une planification qu'il faut respecter. Ce qui est vu là maintenant, c'est d'abord le courant. D'ailleurs, pour le collectif budgétaire qu'on a fait, on a mis quelque chose dedans. On a mis environ 600 000 dedans dans le collectif budgétaire. Pour les mobiliers, le collectif est déjà approuvé. Bon, vous me permettez de quand même, pas de mobilier dedans vraiment. Mais dit que c'est fermé, non, parce que les gens louent cette salle pratiquement tous les mois. Les gens se font les grandes cérémonies là, c'est là où ils font ça. Les gens se font les grandes réunions, c'est là où on fait. Prochainement, nous sommes en train de dire qu'il faut mettre ça à la disposition aussi du collège pour que les mineurs qui tirent en plus les mettre là. Puis permettre à ce que ça soit beaucoup plus animé que ce qui se fait actuellement. Mais dit que ça ne s'utilise pas, non.
Il exhorte la population d'Atiémé de payer leur tasse pour le développement de la dite localité. Ils profitent pour leur envoyer un message. Sarturin Kokou Dansou, maire de la commune d'Atiémé.
Ça relance le problème de la mobilisation des ressources de la commune. La commune n'a pas de ressources. Elle ne peut pas mettre des chèques dedans. C'est le ministère qui envoie les ressources de sport. Et c'est avec ça que nous faisons les chaises et autres et aux mains. Si nous-mêmes on a les moyens, on ne doit pas attendre le ministère pour faire ça. Mais 1 million par an, ça va mettre comme des chaises là. Les jeunes qui grognent quand nous accompagnent, ne suffit pas de grogner seulement. Payer les taxes, ils n'ont qu'à payer les termes, ils n'ont qu'à payer ce qu'il faut pour contribuer au développement de la commune. Mais gagner de façon objective. L'appel à un droit de la jeunesse, il ne suffit pas d'aller grogner sur les radios pour dire qu'on grogne. Il y a des voies de recours. Les voies de recours, c'est quoi? Vous avez des difficultés dans votre localité. Il y a le chef village, il y a le CA, il y a le maire. Pour rencontrer le maire, un de bons citoyens là, il rencontre son autorité pour comprendre. Ça, ce n'est pas interdit, les tests sont autorisés. Ça, c'est le citoyen a le droit de demander. Le citoyen, la loi lui donne l'opportunité de savoir ce qui se passe dans sa commune. Donc il faut aller rencontrer l'autorité. Vous dites, mais vous avez construit le bâtiment, c'est inhabité ou il n'y a pas de chef dedans, qu'est-ce qui se passe ça là? Les tests l'ont permis, c'est un droit au citoyen.
Face à ce problème, les responsabilités sont donc partagées. À chacun de jouer sa partition pour la réfection de la maison des jeunes de Kwenou.
De la commune d'Atiémé, rendons-nous à présent dans la commune de Bopa. Lancement officiel du projet de dépistage Bonne Vue ce mercredi 2 octobre 2024. Ceci dans le but d'améliorer la performance scolaire des élèves, traînant d'éventuels problèmes d'yeux sous la houlette d'un ophtalmologue et de l'assistance d'opticiens. C'est une action de solidarité de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa et la Fondation BOA. Entamé depuis ce lundi, cet événement a connu son épilogue à l'école urbaine centre de Bopa. Suivez ce reportage de Charlène Kendiro.
Au terme de la séance de dépistage de l'acuité visuelle des apprenants à l'école primaire publique centre de Bopa débutée ce lundi, quelques cas ont été détectés grâce à la promptitude de l'ophtalmologue venu du Maroc et de son équipe d'opticiens de la paire de Cotonou. Isidore Dinou, président du bureau de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa UDAB.
Nous avons reçu une équipe de la fondation BOA. Il y a un docteur, M. Bouzid, qui nous vient directement du Maroc en collaboration avec le groupe La Paix qui est au Bénin. Depuis lundi, c'est tout à l'heure que nous avions fini. On a parcouru tous les élèves, tous les écoliers. On les a dépistés. Ceux qui sont censés avoir des problèmes d'yeux recevront d'ici un mois des lunettes.
La directrice de la fondation BOA estime que ces tests de vision visent à réduire les difficultés d'apprentissage chez les apprenants de ces à 12 ans, souffrant de troubles de vision. Edwige Aouamenou.
Nous sommes là pour donc ce dépistage de l'acuité visuelle au niveau des petits-enfants et pour leur permettre de mieux travailler. Ça s'est passé pendant quelques jours ici. Je suis juste venu m'assurer du bon déroulement de ces opérations et nous avons constaté en dehors de ceux qui vont devoir porter des lunettes, il n'y en a pas beaucoup, Dieu merci, mais il y a quelques cas qui méritent des soins plus appropriés. Ces cas ont été déjà relevé, il va falloir que de loin la fondation puisse suivre parce qu'une prescription va être faite pour que le service ophtalmo de l'hôpital de zone puisse voir ce qui peut être fait. Ce sont des cas plus complexes qui vont au-delà du port de lunettes.
Fier de ces actions menées dans le cadre du développement de l'éducation dans la commune de Bopa, Edwige Aouamenou, directrice de la fondation BOA, exprime sa satisfaction.
Lorsqu'il s'agit de venir en aide vers les populations vraiment qui en ont le plus besoin, nous essayons d'être présents, de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Sinon, je pense que c'est une opération qui s'est très bien déroulée ici. À entendre tous les acteurs, je suis satisfaite de ce qui s'est passé ici.
Les élèves de l'école urbaine centre de Bopa ne manquent pas d'exprimer leur joie.
Je suis très content qu'on nous a fait des examens des yeux et il y a certains qui ont mal aux yeux et on leur a donné des lunettes. Mais moi, je suis très content. Moi, je ne suis pas malade. Je vous remercie la fondation BOA. J'aimerais que nous revienne encore pour d'autres choses.
Je suis très contente que les gens des lunettes soient venus et nous fassent des bien. Moi, je ne sens pas les maux de yeux. Les autres qui ont les maux de yeux, on les a donné des lunettes. Dieu les bénisse. Ils sont venus nous guérir. Tous ceux qui ont mal aux yeux et que je veux qu'ils reviennent une autre fois pour nous faire des choses qui sont plus bien que ce qu'ils nous font.
Notons que cette mission de dépistage de l'acuité visuelle a pris fin à l'école urbaine centre de Bopa et continuera sur d'autres sites dans le Mono.
Le comité de suivi du projet appui à la gestion de la réserve de la biosphère du Mono et de l'aire marine protégée Bouche du Roi pour un développement économique inclusif durable à Jireb Delta Mono a tenu sa première session au titre de cette année. L'activité qui s'est déroulée ce jeudi 3 octobre 2024 à Grand Popo a réuni les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement, les cadres du ministère du cadre de vie et des transport et les responsables du projet Jireb Delta Mono. Au cours de cette session, les participants ont eu droit à plusieurs communications dont la présentation du projet Jireb, du plan de travail annuel, des activités mises en œuvre et le point des difficultés rencontrées. Isdina Kambi, coordonnateur du projet Jireb Delta Mono, précise l'objectif global du dit projet.
L'objectif global de l'action Jireb, financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Équipe Europe, investie pour un port de Cotonou durable Bénin, est de renforcer les mesures de gestion de la réserve de biosphère du Mono, MAB UNESCO, et le développement de l'aire marine protégée contiguë de Avlékété à la Bouche du Roi. mais tout en suivant une approche globale de développement territorial durable et résilient au changement climatique. La première composante est mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en collaboration avec l'ONG Eco-Bénin et le comité néerlandais de UICN. La convention de contribution du NDC Africa 2023 445-448, signée le 24 juillet 2023, vise à améliorer la protection et la gestion de la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée de la Bouche-du-Roi et de l'AMP de la Bouche-du-Roi. Le fonctionnement et le rôle du comité du suivi porté par le Centre national de gestion des réserves de faune et sous la présidence du secrétaire général du ministère du cadre de vie et des transports seront partagés dans la suite de la session. Cette session vise, entre autres, à partager les informations concernant le comité de suivi, les activités prévues et le niveau d'avancement de ces activités.
La session vise donc à partager avec les parties prenantes les informations du comité de suivi du projet AGIREB Delta Mono et les activités mises en œuvre dans le cadre du projet AGIREB. Ghislain Constant Gojo, secrétaire général du ministère du cadre de vie et des transports, président du comité de suivi à l'ouverture de l'atelier.
Le projet AGIREB Delta Mono transcende le cadre d'une simple initiative de conservation. Il incarne une vision partagée qui allie préservation de la biodiversité et développement économique et social, garantissant ainsi la durabilité de nos écosystèmes tout en créant des opportunités équitables pour nos communautés. Cette session se veut un espace d'échange constructif où nous approfondirons notre compréhension du projet, de ses objectifs et des résultats escomptés. C'est aussi l'occasion d'évaluer ensemble les avancées réalisées, d'identifier les défis persistants et d'explorer de nouvelles pistes pour renforcer notre action collective. Les objectifs de cette session sont donc les suivants. Partager les informations sur le projet et le comité de suivi avec tous les acteurs impliqués. Présenter le plan de travail annuel du projet. Faire le point sur les avancées et les activités en cours. Analyser les synergies potentielles entre les membres, notamment à travers les sous-comités. Évaluer les rapports d'activité pour assurer une coordination efficace.
À l'instant, Ghislain Constant Gojo, secrétaire général du ministère du cadre de vie et des transports, président du comité de suivi à l'ouverture de l'atelier pour la mise en œuvre effective de ce projet. Le président du comité de suivi a exhorté les participants à une attention soutenue et surtout à jouer pleinement leur partition. Ghislain Constant Gojo sur des propos recueillis par Bessalil FM.
La participation active de chacun d'entre nous, qu'il s'agisse des parties prenantes locales, des experts techniques ou des représentants des institutions partenaires, est essentiel pour bâtir un avenir où la prospérité économique et la conservation environnementale s'harmonisent. Je nous encourage à engager des discussions franches et ouvertes, à partager des idées novatrices et à réaffirmer notre engagement envers les principes du développement durable. Ensemble, nous avons la capacité de transformer les défis en opportunités et de réaliser notre vision d'un Delta Mono prospère, résilient et en parfaite harmonie avec son environnement. Je vous remercie pour votre présence et surtout votre engagement continu et soutenu envers cette noble cause. Je souhaite également remercier chaleureusement nos partenaires techniques et financiers, en particulier l'Union européenne, pour leur soutien indéfectible.
Dans un autre registre à présent, le gouvernement du Bénin, dans le souci d'assurer l'amélioration des moyens de secours et d'assistance aux personnes, a procédé à une remise officielle d'un lot de matériel roulant ce mercredi 2 octobre 2024. Ce lot de matériel roulant d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA est composé de 10 véhicules d'assistance et de secours, de 2 camions citernes d'incendie et de 4 véhicules pick-up. Cette dotation en matériel entièrement acquis sur le budget national est destinée à améliorer les capacités opérationnelles du groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a remis le lot de matériel roulant en leur demandant d'en faire un bon usage. On l'écoute.
Ce matériel a été acquis sur fonds propres, c'est-à-dire avec les ressources de l'État, et pour un montant d'1,5 milliard de francs CFA. Il faut dire qu'il s'agit là d'un premier lot. Nous attendons un second lot qui est constitué des véhicules de même type pour le même montant d'ici la fin de l'année. Alors, tout cela s'inscrit dans la nouvelle dynamique qui consiste à équiper nos unités, à renforcer leur capacité opérationnelle et à avoir aussi un meilleur maillage territorial. Je crois que c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Nous avons commencé depuis environ 2 ans. Nous allons poursuivre. Et l'année prochaine encore, il est prévu que des engins soient acquis, toujours pour renforcer les capacités de nos unités. J'ai demandé au directeur du groupement national des sapeurs-pompiers d'en faire un bon usage, de faire en sorte que ce soit équitablement réparti sur toute l'étendue du territoire national pour que nos populations puissent en tirer le meilleur profit.
Le colonel Gomina Sani, commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, explique l'utilité de ces moyens dont il bénéficie, colonel Gomina Sani.
Le ministre vient de nous remettre un lot de 16 véhicules composés de 2 camions citernes d'incendie pour la lutte contre les feux d'habitation. Ces camions permettent également de faire le sauvetage et beaucoup d'autres choses, telles que la lutte contre la pollution et autres. En dehors de ça, nous avons reçu aussi des ambulances toutes neuves qui vont permettre aux sapeurs-pompiers d'aller au secours des populations sur les routes, sur les voies, lors des accidents de la circulation, d'assister des personnes prises de malaise dans les lieux de travail ou sur la voie publique et de pouvoir également évacuer les malades en cas de parturience, les malades et les cas de parturience. En dehors de ça, nous avons reçu des pick-ups, ce sont des véhicules d'intervention diverses qui nous servent également à faire des interventions au profit des populations dans le cadre des inondations, de pouvoir transporter du personnel, pouvoir aller renforcer les équipes qui sont déjà sur place sur les lieux et de pouvoir également effectuer certaines missions de projection à l'intérieur du territoire. Voilà à peu près ce que nos engins servent à faire.
Il est 19h22 et on s'informe à présent hors de nos frontières avec Firmin Coiffin. Mais avant, voici ce qu'il installe. Firmin Coiffin, bonsoir.
Angelo Sinou, bonsoir.
Vous nous dites que 15 régions ukrainiennes sont visées par une attaque massive de drones russes.
Les frappes russes ne faiblissent pas en Ukraine. À Kiev, l'alerte aérienne a duré plus de 5 heures. Ce 3 octobre, la ville était visée par une attaque massive de drones et au total, 15 régions ont été ciblées par l'armée russe dans une attaque de drones à grande échelle. Des attaques désormais quotidiennes et qui causent des dégâts matériels et des pertes humaines. Le tout nouveau patron de l'OTAN, Mark Rutte, effectue une visite à Kiev. J'y arrive en signe de soutien 2 jours après sa prise de fonction. En septembre, il n'y a pas eu un seul jour sans que les infrastructures énergétiques, les bâtiments résidentiels ukrainiens n'aient été touchés. La nuit dernière, c'est plus d'une centaine de drones, dont 78 ont été interceptés selon les autorités ukrainiennes qui ont été lancés. Ils n'ont pas fait de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. Des lignes électriques ont été endommagées dans la région d'Odessa, au sud et dans l'ouest du pays également. À Poltava, ce sont 6 bâtiments commerciaux, un bâtiment résidentiel et un jardin d'enfants qui ont été touchés. Et ici, à Kiev, dans la capitale, la nuit a été ponctuée d'explosions entendues au loin. Une quinzaine de drones russes visaient les infrastructures énergétiques. À cela s'ajoutent les frappes de missiles et bombes planantes la nuit dernière. Kharkiv, dans le nord-est du pays, a été touché. Une dizaine de personnes ont été blessées.
Firmin Coiffin, vous nous dites également qu'Israël promet une riposte à l'attaque grave de missiles lancée par l'Iran.
L'Iran a lancé ce mardi soir, 1er octobre, une attaque massive contre Israël à l'aide de missiles balistiques. La plupart des engins ont été interceptés, notamment dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv. Mais 2 blessés légers ont été dénombrés. L'armée israélienne a parlé d'une escalade grave et dangereuse qui aura des conséquences. Le premier ministre israélien affirme que l'Iran a commis une grave erreur dont il paiera le prix. Israël promet de frapper frappé le Moyen-Orient avec force pendant la nuit. Le président français a condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Et la France a mobilisé mardi ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne, déclare l'Élysée dans un communiqué publié à l'issue d'un conseil de défense. Emmanuel Macron a également exigé que le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population et demandé aux autorités israéliennes de mettre fin au plus vite à leur opération militaire au Liban, précise le texte. La France organisera prochainement une conférence de soutien au peuple libanais et à ses institutions, annonce enfin la présidence, précisant que le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, allait se rendre à nouveau au Moyen-Orient.
Mission accomplie pour vous, Firmin Kouafé. Celui dont la mission commence, c'est Fidèle Atiogbe en page des sports.
Le journal, la page des sports.
Le Bénin poursuit son aventure à la Coupe du Monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024 au Mû et à la porte de l'élimination. Les Guépards maracaniens se sont remobilisés pour faire face aux défis opposés à la France. Ils ont créé la surprise et se hissent en quart de finale. Fidèle Atiogbe pour plus de précisions.
Grosse prestation et démonstration des Guépards maracaniens hier lors de la troisième et dernière journée des phases de poule face bien sûr à la France. Ils l'ont bien sûr promis et avec détermination, ils l'ont réalisé et ceci sans faute. Le Bénin a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024 en battant avec la manière la France par le score de 8-1. En infligeant cette lourde défaite aux Français maracaniers, les ambassadeurs béninois terminent bien sûr leader de leur poule et renvoient directement à la maison leurs adversaires du jour suite à la victoire dans l'autre rencontre de la Guinée-Conakry. Très ému de cette qualification, le coach de l'équipe nationale du Bénin, Juste Fleury Dansou, et le capitaine Marius Oké se disent satisfaits et promettent garder cette volonté de vaincre pour la suite de la compétition. On les écoute.
Bon, franchement, on ne pouvait pas s'y attendre, mais on était quand même venu pour la qualif. On savait que pour éviter de faire tout calcul, il fallait battre la France par un score d'au moins 3 buts d'écart. Et nous étions venus sur cette base, nous nous sommes préparés sur cette base. Ce n'est qu'un bonus si nous arrivons à aller jusqu'à 8. Nous sommes arrivés, c'est pour aller jusqu'au bout et nous l'avons chaque fois dit quand on en a eu l'occasion. Même après la défaite contre la Guinée, nous avions dit que nous jouons entièrement notre chance et que nos ambitions ne changeaient pas. Et jusqu'à maintenant, c'est la même ambition qui nous anime. Donc nous avons frôlé le pire. Aujourd'hui, qu'on s'est relevé, je crois que cette victoire va nous permettre de nous remettre sur le droit chemin et d'aller de l'avant.
La clé de notre qualification, c'est d'abord l'union qu'il y a entre les joueurs, entre le staff technique et puis l'union de tout un ensemble avec la fédération. Cette union-là s'était effritée lors du match contre la Guinée et on a dû se remobiliser pour affronter ce match qui a connu quand même un épilogue très heureux. Et nous espérons aborder les quarts de finale en toute confiance. Comme le coach l'a déjà dit, dans notre état d'esprit, il n'y avait pas de calcul à faire. Il fallait rigoureusement gagner par un score de 3 buts d'écart. On pouvait faire 17-14, 23-20, 17. Nous, on s'en foutait des buts encaissés. Il fallait gagner par un score de 3 buts d'écart. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un score de 8-1, vu la physionomie que l'équipe de France a montrée depuis le début de la compétition.
À noter que toutes les rencontres des quarts de finale de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana sont désormais connus et dans la journée du 4 octobre, elles livreront leur verdict. Le Bénin sera face à la Belgique et pendant ce temps, le pays organisateur, je veux bien parler de la Côte d'Ivoire, jouera bien sûr contre la Guinée-Conakry. Aussi, il y aura les duels Burkina Faso contre Canada et puis Togo face au Brésil.
Ben Salil Info Soir, Stop FM, mise en onde Herman Zalé. Les présentations, Angelo Sino, au revoir.